Et je vais faire une auto, enfin pas auto-promotion, mais promotion, en tout cas, annonce promotionnelle. Elle est d'actualité puisque on vient de traduire l'article du Handbuch der Soziologie Staat, qui est une sorte de condensé en une page de la Staatslehre. C'est donc dans l'ouvrage intitulé État et société politique sous la direction de Dominique Pinard et Bruno Carsanti. Et j'ai encore fait un petit commentaire d'accompagnement. Voilà. Donc, ça vient juste de sortir. Ici, j'ai déjà changé le titre, en fait, j'ai oublié mon titre. Donc, j'ai décidé de parler de ce qui m'intéressait. Et je vais poser deux questions à propos de la théorie de l'État de Hermann Hellin et surtout son concept d'État. C'est à qui, à quoi elle était destinée et quel a été l'un de ses meilleurs destins. Donc, c'est destin et enjeu de la théorie de l'État ou du concept d'État. À qui, à quoi elle était destinée? Je veux dire par là, qui et quoi entendait-elle combattre cette théorie de l'État dans le contexte même qu'il l'a vu naître, c'est-à-dire dans le contexte des sciences juridiques et sociales de l'époque de Weimar? Et disant cela, j'accorde à tout le moins à ton ami Carl Schmitt, que tu as traduit plutôt que Hellin, et on t'en veut toujours pour ça. Quel concept juridique ou sociologique ne peut être pleinement neutre, accordons-lui ça, et qu'il a nécessairement une dimension polémique et donc politique, et si l'on veut bien entendre évidemment par cet dernier adjectif autre chose que l'inclination politicienne de son auteur, un concept investit et irrite la dimension du politique, et le concept hellérien de l'État est un concept tranchant, et en le déterminant, Heller désigne ses ennemis, dont Schmitt. Quel fut l'un de ses meilleurs destins? Ce sera la deuxième partie de mon exposé. Cette question vise le moment de la réception de Heller dans la Bundesrepublik, et puis, plus précisément, puisque tu as mentionné cet auteur, dans l'œuvre d'un constitutionnaliste, à mon avis, majeur, c'est un pur jugement de valeur, je m'en fiche, mais je l'assume, dans l'Allemagne de la seconde moitié du XXe siècle, pardon, Ernst Wolfgang Böckenförder. Et je veux rappeler ici une anecdote que j'ai déjà racontée, je crois, on m'a dit que je l'avais déjà racontée, mais bon, c'est avec l'âge, hein. Comme toi. Lorsque ce merveilleux recueil d'articles de Böckenförder, à la traduction duquel tu as participé, apparu en 2000 et que j'avais rédigé la préface, j'avais envoyé tous les articles et la préface à Böckenförder en lui proposant de discuter avec lui des problèmes qu'il verrait éventuels. Et donc, voilà, il est venu chez moi un matin, parce qu'on habitait deux villages côte à côte, presque, à côté de Fribourg. Et on a discuté à peu près 3 heures. Et puis, alors, j'ai dit, dans ma présentation, je suis un peu désolé, je n'ai pas réussi à vous faire vraiment complètement schmittien. Alors, tout le monde le dit. Et puis, il y a Hermann Heller pour finir, moi, ça me. Et il m'a dit, et ça, donc, en substance, que lorsqu'il a lu la Staatslehre et qu'il a découvert la définition hellérienne de l'État, alors tout est devenu clair pour lui. Donc, moi, j'essaye depuis de comprendre ce que Böckenförder avait voulu dire ce matin-là, comment Heller avait trouvé asile dans la pensée de Böckenförder, c'est donc le deuxième temps. Donc, première partie, allusion discrète à Thomas Mann, Heller à Weimar. La théorie de l'État de Hermann Heller repose sur une double décision fondamentale, on en a déjà évoqué. D'une part, une théorie de l'État ne peut être qu'une sociologie de l'État. Deuxièmement, une sociologie est une science de la réalité. Et cette double décision est vraiment dirigée d'abord contre tout un courant post-weberien de la sociologie weimarienne allemande que Heller regroupe, mouvement puissance, sous l'étiquette théorie de l'esprit objectif, c'est aussi le titre d'un livre de Hans Freyer, théorie des objectifs ou Geistes. Alors, je vais citer Heller, nous devons prendre position contre un idéalisme qui, en théorie comme en pratique, n'est pas moins douteux que le matérialisme. Un idéalisme qui affirme de l'État et tout autant de l'économie, de la culture, qu'il serait, et là il cite un auteur, une sphère qui ne relève ni du corps ni de l'âme. Elle consiste en, alors j'ai un Sinnbild, configuration de sens, configuration sémantique, structure sémantique. Bon, c'est difficile, mais Nathalie va m'aider. Hein, des configurations de sens non psychiques, pas subjectives. Donc, elle est esprit. Esprit, es-tu là? Et c'est Werner Sombart qu'elle cite ici, en qui il voit une figure de proue de cette théorie de l'esprit objectif avec Eduard Spranger, Hans Freyer, Otmar Spahn, etc. C'est une nouvelle idéologie allemande, dit-il. Voilà. Donc, et là, il cite Misère de la philosophie, évidemment, pour les contester. La métaphysique de l'esprit objectif qui se développe progressivement, une sorte de religion académique, c'est une formule de Heller, s'appuierait sur les recherches logiques de Hegel. Je cite Heller sur Husserl, de Husserl. Celles-ci ont mis en lumière, les recherches logiques, l'indépendance des vérités à l'égard des données de la conscience, des connaissances objectives par rapport aux expériences psychologiques vécues. Donc l'État se détache des expériences psychologiques vécues que l'on en fait et des significations qu'on en donne. Sur cette base, la théorie sociologique de l'esprit objectif affirme que le contenu objectif de signification doit être indépendant des actes psychiques qui le réalisent. Et il cite Spranger, voilà Spranger maintenant qui arrive, comment l'État, par exemple, même si l'on ne pense qu'à ses organes de pouvoir les plus visibles et à l'ordre juridique en vigueur en lui, pourrait-il jamais être ramené à une expérience vécue individuelle? Ça, c'est contre, disons, je sais que Catherine, tu n'aimes pas ça, mais c'est contre le pseudo-individualisme méthodologique d'Daniel Linek ou des choses comme ça. Ouais, en tout cas, c'est la direction que ça prend. Cette réduction de la réalité politique et sociale à l'esprit peut être interprétée d'un point de vue psychologique comme fondée, alors, en fait, oui, ça c'est Heller qui va parler, fondée dans cette contemplation de savant que l'ère d'une contemplation, étrangère à la réalité, apolitique et de surcroît, bürgerlich saturiert, bourgeoisement saturé, je traduis directement, qui se perd dans le règne des configurations de sens ou des structures sémantiques, des formes qui sont déjà advenues et qui, de ce fait, ont échappé, échappent au vacarme de l'histoire. On détache l'esprit objectif et il est hors du vacarme de l'histoire. Une contemplation qui fait face, je termine la citation, au devenir toujours risqué des formes nouvelles, avec indifférence quand ce n'est pas avec répulsion. Donc, bon, c'est la théorie de l'esprit objectif, c'est le conservatisme, au moins conservatisme. Reléguer l'État au domaine de l'esprit, c'est donc le sortir intellectuellement du vacarme de l'histoire. C'est l'instituer dans une dimension qui échapperait au petit monde humain des luttes et des querelles pour en faire l'arbitre indépendant de celle-ci, c'est désocialiser l'État pour mieux le dépolitiser, penser la science de l'État dans la catégorie des sciences de l'esprit, les Geisteswissenschaft, c'est s'interdire toute science politique de l'État en vérité, c'est construire ce que Heller appelle une théorie de l'État sans État. Or, l'approche Geisteswissenschaft des sciences de l'esprit, de la théorie de l'État et du droit public, connaît une puissante actualité intellectuelle à Weimar. Et son principal représentant, on l'a évoqué en passant, s'appelle Rudolf Smelt. Voilà ce qu'il écrit. La structure de tout groupe humain contient en elle deux éléments issus de différents mondes qui en sont les moments. D'un côté, celui de la vie personnelle considéré dans ses interactions structurelles résultant des rapports sociaux, c'est ma traduction, en tant que le moment véritablement zeitlich real, réel historique, là, on est dans le monde historique, et de l'autre, la participation, alors à ce grand règne, le règne du sens, idéal anhistorique, idéal zeitlose. Bon. S'il ajoute, notre ami Smelt, que ces deux moments doivent être compris dialectiquement, en vérité, en le définissant comme une configuration de sens ou structure sémantique Sinnbildung, c'est ça la définition de l'État, Smelt rabat bien l'État pris dans son concept même, dans le second de ces moments, pas dans le premier, dans le second de ces moments, dans l'idéal hors du temps, qui est bien le moment premier et fondateur de sa théorie de l'État, puisque, en effet, je le cite, Une autre difficulté repose sur le double caractère de la vie étatique en tant qu'accomplissement d'une fonction imposée tout à la fois par la légalité axiologique, verte, Gesetzlichkeit, bon, de l'esprit, et par le droit, donc ça se sent dans le règne surnaturel de l'esprit, et le droit positif de l'État. Ces deux moments sont eux aussi inséparables au regard d'une théorie de l'État. Tout semble aller bien jusque-là. Le droit public n'est qu'une positivation des possibilités et des tâches imposées par les lois de l'esprit. Et de ce fait, ne saurait être compris qu'à partir de celles-ci. Quand, inversement, celles-ci ont besoin d'une positivation juridique afin de s'accomplir de manière durable et satisfaisante. Le droit positif, le droit de la vie historique, est ainsi anquila spiritus, la servante de l'esprit. La prétendue dialectique est moins hegelienne que le masque d'un platonisme inavoué. Le droit positif n'est pas entendu comme le moment de la négativité du monde des valeurs. Son rapport avec ce dernier est bien plutôt dans l'ordre de la métexis, c'est-à-dire la participation de ce réel historique au monde anhistorique des valeurs. Le monde social participe d'un arrière-monde transcendant, celui des valeurs. On comprend alors ce que la célèbre théorie smentienne de l'intégration signifie. La fonction du droit constitutionnel, je ne vais pas me parler un peu de droit constitutionnel, c'est d'intégrer l'individu à l'État en le faisant participer, en le faisant prendre part à la vie commune à travers des symboles, des procédures, et surtout l'ordre des valeurs objectives que forment les droits fondamentaux. C'est-à-dire en le faisant aussi participer, dans le sens d'avoir part d'une transcendance axiologique, objective, commune. L'intégration dépolitise ainsi le monde étatique et social en même temps qu'elle radicalise la séparation entre l'État et la société, puisque la vérité intrinsèque de l'État est installée dans une sphère transcendante par rapport à la très prosaïque vie sociale. La décision hélérienne sur la théorie de l'État comme sociologie et sur la sociologie comme science de la réalité est premièrement, et ça, ça se voit dans les textes, ça c'est la Staatslehre, c'est le début de la Staatslehre, elle est premièrement dirigée contre cette spiritualisation de l'État et d'une politique dépolitisée, d'une théorie d'État sans État. L'État est et reste toujours dans le vacarme de l'histoire, c'est-à-dire dans les conflits, les tensions des hommes réels formant la société. L'échappatoire transcendantal de l'axiologie objective n'est qu'une voie théorique sans issue. Considéré dans son monde véritable, c'est-à-dire le monde humain réel pour Heller, l'État ne peut être autrement défini que comme, là aussi c'est difficile comme traduction, mais bon, une unité organisée d'action ou de décision. Et alors moi, Wirkeingreifen. Alors moi j'ai dit défectuation, parce que ça me rappelait des choses. C'est-à-dire, ça fait quelque chose dans le monde réel, ça es wirkt. Hein, ça effectue des choses. Voilà. Donc c'est une traduction pas très jolie en français, mais enfin, elle n'est pas dépourvue de sens. Une unité organisée d'abord. Heller rappelle sans cesse que le problème fondamental de la politique consiste à faire d'une pluralité une certaine unité. Bon, c'est banal, et pluribus unum, même les Américains y ont pensé, mais c'est banal. Hein? Enfin, il y a Trump qui ne pense plus. Enfin, je ne sais plus. Avec ce Copacine, on peut peut-être trouver des solutions. C'est une évidence, mais cette unité doit être réelle. Forme d'intégration dans une vie collective réelle et non pas échapper belle dans une transcendance imaginaire. Cette réalité d'unité politique n'est pas celle d'un organisme, alors ça c'est pour Kierkegaard, enfin, rien du tout, qui n'est qu'un mythe et une idéologie iréniste, mais ne peut qu'être celle d'une organisation, on vient de le dire, ce qui est complètement différent, évidemment. En fixant les règles d'investiture des organes, en encadrant leur pouvoir au sein d'un système de compétences, en déterminant les formes et procédures d'édiction des normes, le droit public organise un système d'action qui permet à une pluralité d'individus d'agir de façon non pas uniforme, mais unitaire, ce qui est différent aussi. La démocratie est une certaine forme de cette organisation politique, et une forme d'une organisation politique, c'est ce qui prend en charge cette dialectique dont parle à plusieurs reprises Heller, qui fait du droit un producteur de pouvoir et du pouvoir un producteur de droit. Et ça, il faut penser dialectique. unité d'action et d'effectuation ensuite. Parce que l'homme, je cite, est toujours produit et producteur de son histoire. L'État participe à, je cite encore, la production et la reproduction de la vie réelle. Il agit, il effectue. L'État ne se contente pas d'interpréter le monde, il le transforme. Voilà. Or, si l'État est une force productrice de la société réelle, il est aussi dans l'ordre de la causalité. Donc, il y a un très bon moment de critique de Dilthey et de la célèbre distinction expliquer-comprendre. Donc, ça, c'est assez fort. Parce que c'est ce que négligent les tenants de cette sociologie de l'esprit ou des sciences spirituelles. Et la faute en revient à Dilthey. Il a commis, en opposant expliquer-comprendre, je cite, une erreur hautement caractéristique de la déréalisation de la réalité sociale et de la confusion entre structure sémantique ou configuration de sens et configuration sociale. Les puissances configuratrices du social sont des forces agissantes dans le monde réel et idéaliser le social a pour effet de les occulter en tant que puissance réelle, productrice de droits et de leur propre pouvoir, et donc de produire un discours idéologique, c'est une idéologie allemande nouvelle, sur la société réelle. Ça, c'est la critique vraiment fondamentale. Il ne s'agit pas d'évacuer la question du sens ou des significations sociales, mais de raccrocher la couche sémantique que porte l'action et l'effectuation au mouvement même qui produisent ou reproduisent la réalité. C'est ce que formule Hélin en insistant sur, et ça, ça me semble profondément important pour le comprendre, l'unité dialectique du sens ou de la signification et de l'acte. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est une clé pour moi essentielle de lecture de la Staatslehre. Ce principe de l'unité dialectique de l'acte et de la signification apparaît en effet décisif à plusieurs égards. Tout d'abord, c'est bien ce principe qui arrime la dimension sémantique des sciences sociales à sa base réelle, l'action, la fonction de l'État. La signification sociale de l'acte ne peut se déterminer in abstracto dans le monde de l'esprit, des valeurs, etc., mais toujours in concreto en fonction des conditions effectives de production de l'acte, de la position ou de la fonction sociale de l'actant, de sa puissance d'effectuation, de l'intentionnalité, des effets de l'acte, éventuellement les effets contre-intuitifs de cet acte. Mais c'est là-dedans qu'on cherche la signification et pas dans le règne des valeurs. D'un autre côté, l'acte, en tant qu'acte social, ne saurait être compris dans le système complexe des chaînes de causalité sociale, indépendamment de la signification qui lui est attribuée. Car, à défaut, il ne serait pas plus qu'une simple force naturelle, provoquant un mouvement naturel, mais insusceptible de produire ou reproduire la vie commune d'être humain. Et c'est ce que Heller appelle culture. La causalité, donc, la sociologie, lui aussi, c'est une science de la culture et pas une science de la nature. Ça vient de là. Que l'acte doit être aussi compris en sa signification immanente au social. On comprend pourquoi cette unité dialectique de l'acte et de la signification explique la définition hélérienne de l'État en tant qu'unité organisée de décision et d'action, de décision d'action ou d'effectuation, etc. C'est un concept sociologique et donc réaliste de l'État. C'est un concept tout modeste, je crois, dépourvu de toute idéologie. On n'y voit pas, on n'y dit pas ce que doit faire l'État. Non. C'est ce qu'il décide et ce qu'il réalise peuvent être entendus dans l'unité de l'acte et de la signification. Parce que sinon, ce qu'il décide et ce qu'il fait ne pourrait être compris comme l'exercice d'une fonction sociale. C'est-à-dire que rien ne... Il y a un passage, je ne sais plus où, peu importe. Rien ne distinguerait l'État de la bande de voleurs, pour reprendre. Ils agissent de la même manière. Donc c'est bien la signification de l'action qui permet de distinguer l'État de la bande de violeurs, de voleurs, excusez-moi, parce que ce ne sont pas les modes opératoires, n'est-ce pas ? Parce que la violence est aussi un moyen d'action de l'État, ni les buts spécifiques, le fils qui me demande mon argent aussi bien que le voleur, mais le seul fait que l'État, pour durer, ce qui est dans son concept, doit produire de l'unité sociale conformément à sa fonction, ce qui n'est pas tout à fait la signification de l'acte du voleur. Du point de vue unilatéral de l'acte, on ne les distinguerait pas. Pour les distinguer, il faut lier l'acte et la signification sociale. Bon, j'ai dit en quoi ce concept était clairement dirigé contre le courant Geisteswissenschaftlich, les sciences juridiques et sociales de l'homme. Mais il a d'autres vertus polémiques, il ne s'arrête pas là. Bon, alors j'ajoute pour Weber un passage où, en fin de compte, Heller dit, Weber, il a pas mal commencé, c'était plutôt pas mal, c'est bien, et puis c'est devenu un peu... c'était le prodrome de ce courant Geisteswissenschaftlich, malgré tout. Bon, donc... Ok, je ne discute pas davantage. Mais en plus, oui, c'est un concept anti-kelsénien et anti-schmittien. Donc, c'est encore plus rigolo et encore mieux. Anti-kelsénien d'abord, parce que bon, la réduction de l'État à un ordre juridique relativement centralisé, si vous voulez, on a compris d'après ce que je viens de dire, que ça n'a pas de sens pour Heller. C'est une autre manière de l'idéologie allemande, une fuite hors de la réalité, etc. Au fond, même s'il peut partager la critique que fait Kelsen à Jelinek sur les deux concepts sociologiques et juridiques de l'État, il est plutôt kelsénien dans la critique, mais ensuite c'est pour récupérer le concept sociologique de l'État, hein, et d'unifier le concept d'État dans une sociologie. Voilà. Mais je veux dire juste un autre point s'agissant de Kelsen. On sait que celui-ci définit la norme, alors c'était ça, j'ai pris la définition dans la théorie de l'humain dans la deuxième édition, donc c'était après Heller, mais en fait c'est vraiment un acte fondateur du kelsénisme depuis les Hauptprobleme de 1911, c'est-à-dire la définition de la norme, la signification objective d'un acte de volonté. C'est un point essentiel de la théorie kelsénienne, depuis ses débuts, que d'avoir signalé l'erreur de la doctrine classique, la traditionnelle du 19e, consistant à confondre l'acte de volonté et la norme. C'est-à-dire l'acte volonté et sa signification de norme. Il en résulte que ce qui donne la signification objective de la norme, qui donne la signification de norme, pardon, la signification objective de norme à l'acte, ne peut pas être la volonté subjective de l'auteur. Ça, c'est pas possible. Donc, ou des auteurs, je ne peux ici qu'indiquer, sans approfondir, que cette thèse hellérienne que j'ai déjà annoncée, de l'unité dialectique de l'acte et de la signification, c'est aussi un concept qui vient, combattre la séparation entre l'acte et la signification dans la théorie kelsénienne de l'ordre juridique. Bon. Enfin, la définition hellérienne de l'État est aussi un concept polémique contre l'État de Schmitt. Ce dernier se formule, on le sait, unité politique d'un peuple, chez Heller, unité d'effectuation d'action, unité organisée. On voit que déjà ce sujet-là, le peuple, il a disparu. Ce qui disparaît, c'est le mythe politique schmittien du peuple. À mon avis, c'est la cible. L'État n'incarne pas le peuple fantasmé, mais il exerce une fonction sociale dans une société complexe, plurielle, tendue, avec ses contradictions économiques, sociales, culturelles. Le peuple, chez Heller, c'est d'abord à peu près, je crois, à peu près une société réelle, un nationalisme assez modéré du tout. Mais je n'insiste pas sur la critique hellérienne de Schmitt parce qu'elle va être au cœur de la seconde partie de cet exposé que j'engage tout de suite, donc je suis à peu près dans les temps, grâce à l'intermédiaire entre Schmitt et Heller, Koff, Böckenförde. Et on va retrouver Heller-Schmitt, mais avec l'arbitre. Donc, deuxième partie, Heller en son asile Böckenförde. J'utilise le mot d'asile parce qu'en ce moment, on l'accorde assez peu, alors accordons-le au moins une fois, ça sauve le monde. Ernst Wolfgang Böckenförde est présenté ordinairement comme un disciple de Carl Schmitt. Peut-être le catholicisme, ça les rapproche. Bon, encore que je ne suis pas sûr qu'il partage le même catholicisme, mais on va laisser ça. Toutefois, Böckenförde est aussi un social-démocrate, un libéral, un social-libéral, on va dire, ce que nul ne met en question. Alors, on a parlé depuis Hermann Lübbe d'une réception libérale de Schmitt. Moi, j'ai juste un petit problème, c'est qu'est-ce que c'est que la réception libérale d'une pensée foncièrement anti-libérale ou illibérale ? Moi, Schmitt, c'est le penseur de la démocratie libérale. Son digne successeur s'appelle Orban. Un peu de provocation, ça fait pas de mal. Alors, je voudrais. Donc, ça pose problème. Je trouve que cette formule ne dit rien de Buchenwald. Alors, dans un entretien biographique avec Dieter Gosewinkel, paru dans le dernier livre de la collection Zurkamp de Buchenwald, le quatrième volume, il dit « Je ne fais pas partie des hagiographes de Schmitt. J'ai beaucoup appris de lui. Dans son œuvre, j'ai toujours sélectionné ce que je pouvais reprendre à mon compte et accepter. Sa critique de la démocratie et du parlementarisme, ça, vous la trouverez pas chez moi. » Et il ajoutait « La clé de ma pensée ne se trouve pas seulement chez Schmitt, mais tout autant chez Hermann Heller. » Donc, là, j'ai une confirmation de la conversation que j'avais eue avec lui quelques années auparavant. Alors, l'idée répandue parmi les critiques de Buchenwald sur laquelle cette profession de foi hellérienne, moi j'aime beaucoup Heller, ça serait juste pour masquer son schmittisme, parce que ça c'est gênant, une instrumentalisation donc défensive, mais en fait sans fondement, destinée à se dédouaner d'apparence d'un profond schmittisme. Cette idée me semble elle-même instrumentaliser Schmitt pour mieux rejeter ou critiquer Buchenwald, qu'on a plus ou moins bien lu. Il est vrai que ces critiques en général n'aiment d'ailleurs pas davantage Heller, donc, et qu'en tout état de cause, un pauvre Heller, aux yeux de ces gens-là, ne saurait racheter le schmittisme Buchenwald. Mais peu importe, je soutiendrai la thèse selon laquelle Heller est bel et bien le contrepoint ou, plus réellement, l'antidote à Carl Schmitt dans l'œuvre de Buchenwald. Ce pourquoi on peut sauver le soldat Buchenwald. J'ajoute, parce que, quand même, on ne peut pas prendre Buchenwald pour une sorte de schmittien de panure. Tout catholique pourtant qu'il soit depuis toujours. Alors, je raconte une autre anecdote maintenant. Juste après l'apparition de notre livre, je veux dire notre, il y a eu le jubilé à l'occasion du 70e anniversaire de Buchenwald à Munich, c'était très joli. Et il y avait là le cardinal Lehmann, qui était très proche de Buchenwald, et qui a dit Buchenwald, ça n'a jamais été un fidèle facile. Ouais, je crois qu'il n'a jamais été non plus un schmittien facile. Buchenwald, c'est un intellectuel, c'est-à-dire c'est quelqu'un de pas facile. Hein? Pour déterminer l'incidence et l'importance de Heller dans la pensée de Buchenwald, je vais seulement me limiter à la théorie de la démocratie et au texte de Buchenwald. Pour moi, le plus important sur cette question, c'est démocratie et représentation. Ça a été traduit dans notre recueil. Ce texte est une critique de la conception immédiate identitaire de la démocratie, on dirait aujourd'hui du populisme démocratique. La thèse de cette critique, écrit Buchenwald, est que dans l'idée de la démocratie immédiate identitaire en tant que forme, quand on la considère comme la forme authentique de la démocratie immédiate, on conçoit un concept qui est irréel de la démocratie, pas seulement en un sens pragmatique, c'est-à-dire que ce n'est pas possible à réaliser donc, malheureusement, mais aussi en un sens théorique. La conception immédiate identitaire de la démocratie est un mythe et une idéologie, un mythe parce que la volonté populaire ainsi idéalisée, hein, c'est le peuple qui parle, là, on dirait Marine Le Pen, a son caractère spécifique qui consiste en ce que, je cite Buchenwald, à partir d'elle-même, non mise en forme, formalisée, cette volonté est diffuse et elle a besoin d'une mise en forme. Bon. La volonté du peuple n'existe pas comme quelque chose, je cite encore Buchenwald, de déjà déterminé en soi, qui n'aurait besoin que d'être convoqué pour s'exprimer et sortir toute seule, comme... peu importe. Au contraire, elle est provoquée et actualisée dans sa déterminité concrète sur la base d'une question, d'une interrogation qui contiennent en elle-même une préfiguration, une préformation. Le mythe, c'est celui de l'immédiateté. Le peuple n'est jamais immédiatement présent à lui-même. Il exige une activation, une actualisation, ce qui suppose des formes, des procédures, afin de pouvoir s'exprimer en tant que volonté du peuple. Cette volonté n'est jamais directe. Il n'y a que le Conseil constitutionnel pour croire ça. L'expression de la souveraineté populaire. L'expression directe de la souveraineté populaire. Bon, on oublie qu'il y a le corps électoral, que tout ça est complètement réglé, que les formes, les procédures, tout ça sont réglés. Non, peu importe. La votation populaire elle-même, type suisse, entre le peuple et son soi, est une distance. Mais les procédures dites de démocratie directe mettent elles aussi ce thème qui est chez Birkenfelder, je ne crois pas que ce soit chez, je ne l'ai pas vu chez Heller, chez Birkenfelder est très important et qui lui vient de Hegel à travers sa fréquentation du Collegium Philosophicum de Joachim Ritter dans les années 50 à Münster, c'est le thème de l'Entzweiung, la scission, le dédoublement. Il y a encore de l'Entzweiung dans l'immédiateté de ce concept des procédures de démocratie dites directes. Mais le discours de la démocratie immédiate identitaire possède aussi un caractère idéologique au sens de Marx. Il masque une réalité de fait représentative, c'est-à-dire il masque que Birkenfelder appelle une structure représentative qui gît au fond de ces procédures, aussi directes soient-elles, une structure élitaire. C'est pourquoi, hein, parce que même la votation populaire en Suisse, l'initiative populaire, suppose l'activation d'une minorité, etc., qui met en jeu des procédures, etc., etc. Ça ne vient pas de soi à soi. Le manteau de la démocratie directe recouvre une structure représentative qui s'y déploie. Or, Schmitt le reconnaît, je lui accorde ceci, il n'y a pas d'État sans représentation, c'est dans la théorie de la Constitution. Mais, il écrit aussi, identité et représentation sont deux principes politiques structurants, mais opposés, radicalement opposés. Et le grand débat, c'est le grand débat constitutionnel de Weimar pour lui, c'est le débat entre identité et représentation. Bon, eh bien, c'est clair que ce que je viens de dire sur la critique, cette critique de Birkenfelder s'adresse à Schmitt directement. C'est évident, il n'y a pas de doute. Mais une fois que la critique de la notion immédiate représentative de la démocratie est terminée, au moment où le texte commence la reconstruction d'un concept positif opératoire de la démocratie, eh bien, Birkenfelder en appelle à Heller et à son concept d'État. C'est au moment décisif de ce texte, pas n'importe où. Il ramène, le concept d'État ramène la question de la démocratie à son fondement, dit Birkenfelder. Alors Heller joue bien ici en contrepoint de Schmitt, même plus précisément comme son antidote, parce que ce dernier, Birkenfelder, pardon, précise que l'importance du concept hellérien de l'État tient en ce que l'État n'y est pas conçu comme, ni comme une, je cite, unité substantielle en elle-même, ni comme une simple unité de représentation subjective. C'est-à-dire, ni Schmitt, ni Jelinek, pour faire simple. Le concept hellérien de l'État, unité d'action et d'effectuation, est radicalement substantialisé et s'oppose de ce fait, d'un côté en tout cas, au concept schmittien de l'unité politique d'un peuple. Ce qui fait l'unité de l'État, ça n'est pas la prétendue unité substantielle d'un peuple, ça n'est pas l'égalité substantielle qu'on trouve dans la théorie de la Constitution, que tu as préfacée, des citoyens, ce n'est pas leur mêmeté, leur ressemblance, une sorte de solidarité mimétique, ce n'est pas leur Gleichartigkeit, qui entre en droit va devenir facilement Artgleichheit. Et là, c'est l'égalité dans la race. Ce n'est pas, pour Birkenfelder, comme pour Heller, un principe substantiel d'identité, c'est simplement une forme d'organisation. L'État, écrit Heller, n'est rien d'autre qu'une forme de vie humaine et sociale, une vie dans une forme et une forme qui vient de la vie. C'est ça, encore la dialectique. Telle est la leçon de Heller qu'accueille pleinement Birkenfelder. Et je vais juste prendre deux exemples, parce que ça conditionne des questions substantielles, des questions importantes chez Birkenfelder. On sait que Birkenfelder, très jeune, à 27 ans, est entré sur la scène intellectuelle allemande en appelant les catholiques à assumer l'éthos de la démocratie. Le jeune Birkenfelder précise que cet éthos, dont le principe séminal est les Gleichfreien, les égaux libres, ne porte et ne supporte la domination qu'en tant qu'égaux libres. C'est pour lui le principe qui permet de comprendre l'éthos de la démocratie. Or, cette éthos de la démocratie ne contient que des petites valeurs, des valeurs formelles. Hein, ne préjuge pas, c'est-à-dire que ces valeurs ne doivent pas préjuger des résultats substantiels de la délibération. Parce que sinon, c'est ce que font les catholiques, ils veulent l'État chrétien. C'est déjà préjugé. Donc, ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième, c'est la même chose pour son combat contre la fondation axiologique du droit. Faire reposer le droit sur les valeurs et qui attire tant de juristes, hein, comme des mouches. Ils trouvent trouver un refuge, un abri sûr dans l'antre des valeurs substantielles, alors qu'en fait là c'est pour je vais être un peu vébérien, c'est la guerre des dieux qui se donc la mouche elle n'a pas vu l'araignée. Alors bien sûr le Schmitt de la tyrannie des valeurs, cette fois n'est pas loin, mais il ne doit pas masquer la cohérence profonde de la pensée de Beckenförde qui se joue aussi dans l'État moderne, sécularisé, démocratique et libéral, c'est-à-dire un État qui vit sur la base de présupposés qu'il ne peut par lui-même garantir, le fameux dilemme beckenfordien, et qui est une certaine forme d'organisation et de domination, il convient de maintenir ce principe fondamental de préséance du formel sur le substantiel. C'est d'abord la forme, et pas la substance. Sinon, on ne peut rien comprendre à la démocratie. Et donc, sa lutte contre les Smendiens, qui rejoint là parfaitement la lutte de Heller contre Smend, c'est d'avoir introduit dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en 1958 la conception des droits fondamentaux comme ordre objectif de valeur et hiérarchie de valeur. Ça. Et il oppose sa conception de la Constitution comme ordre cadre. Il reste une question, pour conclure. Pour conclure. Mais ça, c'est une conclusion, ce 10 pages.
Oh, je veille.
Il reste quand même un petit problème, c'est la question de l'homogénéité démocratique. Parce qu'on la retrouve chez Beckenförde. Alors on y voit, ça vient de, comme Robert von Hoyen qui n'a rien compris à Beckenförde, je crois, je ne sais pas s'il a compris quelque chose à quoi que ce soit, mais c'est grave. Donc et on la trouve chez Schmitt, évidemment, dans le livre que tu as traduit, enfin que tu as préfacé. Non, homogénéité, etc. Mais il y a aussi le texte de Heller sur démocratie et homogénéité sociale. Donc il fallait dire, attention, moi j'ai toujours dit homogénéité relative. Ça ne veut pas dire homogénéité absolue, ça ne veut pas dire homogénéité substantielle, ça veut dire relative. Or, voilà ce que dit Heller. Il faut qu'il existe un certain degré d'homogénéité sociale afin que la formation de l'unité politique soit possible. Elle est de l'article de 1928, c'est-à-dire c'est une réponse à en faire face au CDM. C'est une homogénéité relative, une homogénéité de la société, et non pas une homogénéité du peuple. Ça change tout. Qui serait porteur de son unité politique sur la base de sa propre homogénéité présupposée. C'est pas ça. Le texte de 28 est une réponse très critique à Schmitt, et un certain degré d'homogénéité sociale, ça veut dire que c'est relatif. Et donc, pour moi, Beckenförde, c'est à Heller. Ramenons la critique de Schmitt par Heller à ses lignes de force. Schmitt écrit Heller, est bien loin d'avoir touché le centre spirituel du parlementarisme quand il situe, ce centre dans la publicité de la discussion et dans la croyance en la possibilité d'accéder à la vérité au moyen de la concurrence des opinions. Cette vision, dit Heller, est soit celle des apologètes aveugles du parlementarisme, soit celle de ses détracteurs les plus acharnés. En vérité, la base historico-spirituelle du parlementarisme consiste en la, ça c'est Heller qui parle, en la croyance, en une base commune de discussion, et donc en la possibilité d'un fair play avec l'adversaire politique intérieur. C'est tout différent. Parce que la croyance en la capacité de la discussion publique à découvrir la vérité conduit à placer cette discussion comme sous une sorte d'horizon transcendantal d'une vérité possible. Et si on a atteint la vérité à partir de la discussion publique, elle est advenue. Là, on n'a plus besoin de discuter sur cette question-là. Si bien que la démocratie devrait s'épuiser petit à petit et arriver à la vérité totale. Et à ce moment-là, il n'y a plus de politique et il n'y a plus rien. Non. La norme, voilà, ça c'est la norme produite par la discussion publique n'est jamais une vérité, ça reste une opinion. On revient à quelque chose de purement formel. Ce qui est important, c'est la base de discussion, une base de discussion, voilà, de fair play. Et ça rejoint l'éthos démocratique de Beckenförde. Mais si Schmitt n'a pas saisi l'idée directrice du parlementarisme, c'est précisément à cause de son concept du politique. Je cite, c'est très fort pour moi, Heller. Il convient de contester l'opinion de Carl Schmitt selon laquelle la distinction ami-ennemi serait la distinction spécifiquement politique, celle à laquelle on pourrait ramener tous les actes et tous les motifs politiques. En effet, si on admet avec Schmitt que l'ennemi signifie, et il cite Schmitt, en un sens particulièrement intense, quelque chose d'existentiellement autre et étranger, alors, dit Heller, comment t'explique Karl la formation et l'existence de l'unité politique elle-même? C'est pas possible. Ça serait quelque chose, dit-il, de foncièrement apolitique. Et au fond, la politique intérieure, ça n'a pas de sens. C'est pas très politique, voire pas du tout. Donc c'est pourquoi l'homogénéité schmittienne doit être présupposée, comme le concept d'État présuppose le concept du politique, on le sait, et si elle est présupposée, elle n'est pas sociale, elle est posée d'avance comme une homogénéité substantielle, comme un absolu, et le chemin qui va de la Gleichartigkeit à l'Artgleichheit n'est pas bien long. L'homogénéité sociale relative n'est pas une identité assignée d'avance, mais peut-être que le produit de l'action politique des hommes, de l'État, qui n'est pas une unité politique d'un peuple homogène, mais l'unité organisée dont l'action et l'effectuation en régime démocratique doit se donner pour tâche de produire et maintenir cette indispensable homogénéité sociale relative. Le concept de politique, dit Heller, ne permet pas de comprendre ce qu'il en est de la politique intérieure qui suppose la possibilité de cette base de discussion que les inégalités trop massives, et là je ne suis pas en train d'insister, de classe, mais aussi de race, on insiste notamment sur les États-Unis avec la question des Noirs, mettent en péril en faisant précisément de l'autre, avec qui je devrais discuter, l'ennemi de classe, l'ennemi de race. Donc l'homogénéité sociale est toujours à faire. Je ne vais pas développer à propos de Buckenfeld simplement, dans son texte sur le concept de politique comme notion clé pour interpréter l'œuvre juridique de Carl Schmitt, c'est un texte écrit en hommage à Carl Schmitt, parce que c'est dans Complexio Oppositorum, et c'est un désengage de Schmitt, en fait. Et il commence par dire, le concept de politique, et au moment clé, il dit, oui, mais la politique intérieure, là, donc, moi, je crois, c'est directement, il y a un lien tellement évident que c'est clair. Et c'est là ce qu'il appelle la politique au sens secondaire, important. Et voilà, je crois que je peux m'arrêter là pour mon avis de Buckenfeld. Mais on comprend pourquoi l'État moderne vit sur la base de présupposés qu'il ne peut pas garantir, parce qu'il ne peut pas garantir, il ne peut pas recréer cette homogénéité substantielle